Parole de lecteur. Parole de lecteur. Une émission de Monique Fauché.
Médecin, psychiatre, membre de la Société psychanalytique de Paris, Marc Babonneau s'intéresse depuis toujours à la culture. C'est donc un éclairage particulièrement intéressant et novateur qu'il apporte aux différentes expressions culturelles, dont celle qui nous intéresse ici, la littérature. Marc Babonneau, bonjour.
Bonjour Monique.
Vous avez dit avoir eu une passion très précoce pour la vie psychique de l'être humain. Est-ce parce que très souvent, les romans nous aident à déchiffrer les énigmes humaines, qu'elles soient sociales ou individuelles, qu'à leur lecture, vous avez donné cette orientation professionnelle à votre vie ?
Je pense que c'est encore plus antérieur. C'est pour des raisons personnelles que je m'intéressais à la vie psychique du sujet humain, puisque j'ai fini par en faire un métier. Mais j'avoue qu'au passage, et notamment dans l'adolescence, les lectures, et notamment de romans, qui alors ne traitent pas de psychanalyse, mais enfin qui sont très très riches comme indications psychologiques, étaient une avenue qui me permettait d'enclencher ensuite sur les études de psychiatrie et puis sur ma formation de psychanalyste.
D'accord. Alors, vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de l'ouvrage de Sylvain Tesson qui s'intitule « Sur les chemins noirs ». Sylvain Tesson, je rappelle à nos auditeurs, qui a eu récemment le prix Renaudot en 2019 pour « La panthère des neiges ». « Sur les chemins noirs », c'est un livre antérieur. Pourquoi ce choix ?
Alors, le choix est venu du confinement. En effet, une des choses qui m'ont aidé à traverser le confinement récent a été que j'ai retrouvé un goût que j'avais enfant pour les feuilletons radiophoniques. Et là, c'était un feuilleton qui passait, non pas à la radio, mais sur Arte, et qui était dans le sillage d'Ulysse, qui est un documentaire du réalisateur Christophe Reyla, et qui embarque, ou qui est embarqué, je ne sais pas, par Sylvain Tesson.
Qui est écrivain de la marine. Il est officiellement écrivain de la marine, Sylvain Tesson.
Ah, ça, je ne savais pas. Vous me l'apprenez, Monique. Bon. Et donc, dans le sillage d'un livre récent qui s'appelle Un été avec Homer, que j'avais beaucoup aimé, je me suis embarqué sur ce documentaire qui était syncopé en cinq séquences, cinq jours. Et j'avoue que chaque jour, j'attendais impatiemment l'épisode suivant. Et donc, le principe était que Sylvain Tesson embarquait avec le réalisateur sur un bateau et qu'ils ont parcouru la Méditerranée en essayant de recomposer les escales prêtées à l'Ulysse d'Homère. Bon, ça, c'est à partir d'un livre qu'a écrit un helléniste très très célèbre de l'entre-deux-guerres, Victor Bérard, qui a, lui, finalement cartographié les étapes de l'Odyssée et donné à chaque épisode une localisation géographique réelle. Et c'est un livre malheureusement très difficile à trouver et disparu, avec des photographies d'un grand photographe genevois, Frédéric Boissonnat. Alors, pour la petite histoire, celui-ci a eu une médaille d'argent à l'exposition photographique de Toulouse de 1887, quand il était jeune.
Il y a quelques temps déjà.
Il y a quelques temps, oui. Alors bon, Sylvain Tesson, beaucoup plus moderne, a d'abord écrit le livre « En été avec Homer » et ensuite a parcouru la Méditerranée pour le documentaire. Alors, j'en parlais à une amie, ayant lu déjà donc, ce dont a parlé Monique tout à l'heure, « La panthère des neiges », ayant lu dans les forêts de Sibérie, et elle me dit « Mais tu devrais lire sur les chemins noirs ». Donc, ça a suivi le documentaire, j'ai lu sur les chemins noirs et ça m'a donné l'envie d'en parler, si on me le proposait. Voilà, chose faite.
Ben voilà, merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Et je pensais aussi qu'en période de confinement, on a connu la lenteur, le silence et une forme de solitude. Et que dans le fond, c'est ce qu'il prône dans son ouvrage.
Tout à fait, mais c'est un adepte de ses postes dans sa vie, qui sont multiples et qui sont d'ailleurs la matrice de ses écrits, puisque à maintes occasions, il trouve moyen de s'absenter, je ne trouve pas d'autre terme, enfin, pour se livrer à la méditation, à la contemplation, et dans des endroits assez inexpugnables, où il est peu dérangé.
Dont la Sibérie,
voilà.
Par exemple.
Alors, c'est un, voilà. Alors, bon, j'en dis un mot de Sylvain Tesson, hein. Donc, c'est un aventurier moderne, en ce sens. Il s'est acquis une grande notoriété parce qu'il fascine beaucoup les gens. De ses aventures, il a fait des écrits, donc beaucoup de récits de voyage, quelques recueils d'aphorismes qu'il a pu imaginer pendant ses confinements, entre guillemets, comme disait Monique. Et il est journaliste aussi au Figaro. Il est très, très apprécié d'un très grand nombre de gens et sa notoriété va croissant. Donc Monique a cité, on va remonter, le prix Renaudot pour la Panthère des Neiges, tout récent, hein, c'est à l'automne 19. Il a eu le prix des Hussards en 2014 pour Bérézina, le prix Médicis de l'essai pour Dans les forêts de Sibérie en 2011, et, excusez du peu, il a eu à la fois le prix de la Nouvelle de l'Académie française et le prix Goncourt de la Nouvelle pour Une vie à coucher dehors, d'un programme, ouais. En 2009.
Oui, parce qu'il a l'habitude de coucher à la belle étoile.
Voilà.
Alors, merci Marie d'avoir donné à nos auditeurs cette liste d'ouvrages qui sont tous aussi passionnants les uns que les autres. Des petits ouvrages courts, mais je dirais denses. Ils ne se lisent pas si vite que ça.
Ah, tout à fait exact. Vu le format, je pensais...
L'avoir vite.
Oui, l'avoir assez vite lu chaque fois. Et en fait, il faut cheminer assez posément pour suivre sa pensée. Et donc, c'est vrai, Monique, que ça ne se lit pas si vite que ça. Ça prend plusieurs soirées, si on veut le lire vraiment.
Alors, ce qui m'a étonnée, c'est qu'en exergue de l'ouvrage, il cite Thomas de Kinsey, qui est quelqu'un d'un peu sulfureux. Il a écrit Mémoire de... Alors, j'ai dit Confession d'un mangeur d'opium. J'allais dire Mémoire d'un opiumman, c'est encore un autre titre. Mais Confession d'un mangeur d'opium, qui cite donc... dans lequel il dit « L'air est frais et les montagnes sont élevées, les forêts sont tranquilles comme le cimetière, cela va m'ôter ma fièvre et je ne serai plus malheureux dorénavant. » Est-ce que c'est ça qui peut introduire cet ouvrage ?
On peut, puis de toute façon, il y a des traits communs dans ce que vous avez dit, je ne vais pas détailler, mais entre Thomas de Quincey et Sylvain Tesson, ils ont quelques traits psychologiques en commun.
Et des addictions aussi.
Oui, voilà, entre autres. Hein. Ce que je veux dire, c'est que, avant de commencer peut-être les lectures d'extraits, on peut suivre divers fils pour se tenir dans la lecture de ce livre-là, sur les chemins noirs. Alors d'abord, j'en reparlerai une minute après. C'est un trajet qui est pas vraiment initiatique comme par exemple le voyage de Compostelle, mais en tout cas thérapeutique. Alors on verra pourquoi tout à l'heure. Ça, c'est explicite sur le plan physique, puisque victime d'un grave accident, il a entrepris ce voyage pour se réparer, et c'est implicite sans doute sur le plan psychique. Donc se réparer est à entendre en deux acceptions, une rééducation physique et probablement aussi un travail psychique au cours de cette traversée dont on va parler tout à l'heure. En second lieu, il y a un autre fil, c'est une ode à la ruralité ancestrale et même au-delà, à la nature sauvage. En ce sens, on peut dire que Sylvain Tesson est un peu précurseur parce que j'y ai retrouvé des traits du mouvement actuel appelé survivalisme, qui est en réaction à l'hypothèse catastrophique de la fin du monde. Et les survivalistes, comme Sylvain Tesson, ont en commun le fait que l'urbain... l'urbain est vécu comme maléfique et donc il faut se réfugier hors des villes. Et après, ce refuge est à la fois dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, je viens de le dire, on se retire à la campagne, et dans le temps, parce qu'on retourne à des pratiques de nos aïeux ou de nos grands-parents ancestrales, en fuyant le progrès technologique qui est abhorré. Alors ça, on va le retrouver dans le livre.
Oui.
Donc c'est aussi un manifeste contre l'emprise de l'homme sur la nature au XXe siècle et contre le quadrillage des voies de communication qui zèbrent le paysage initial et contre l'horreur absolue des zones périurbaines qui ont annulé des terres préexistantes. Enfin, pour finir, le troisième fil, c'est que c'est aussi une élégie poétique à certains moments. Tesson célèbre la contemplation des différentes régions françaises traversées. Il décrit superbement son dialogue intérieur avec la beauté de certains pays et de leurs paysages. J'ai envie là de citer quatre vers de Baudelaire, de son poème Correspondance, qui me paraît aller aussi avec ce dont on va parler ou ce qu'on va lire. Donc, Contemplation. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles, l'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Et je crois que Sylvain Tesson est à la recherche de ses correspondances et de ses regards pour lui familiers.
Oui, absolument. Et quand il voit cet arbre, quand il est hospitalisé, qui par la fenêtre lui insuffle sa joie vibrante, déjà, ça rejoint ce que vous dites. Et donc, moi, ce que j'ai admiré, on va dire un mot avant de clore cette introduction, ce que j'ai admiré, c'est d'avoir cette force, cette énergie vitale tout de même, pour se décider d'un projet, d'un but.
Hein? Tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, on peut dire que de sa singularité permanente, Monique, quand nous avions parlé de ce projet, de parler de ce livre, vous m'avez dit Sylvain Tesson est un personnage hors norme. Et ça m'avait bien plu parce que hors norme, pour moi, c'est dans deux acceptions. Hors norme, ça peut être quelqu'un comme étaient les demi-dieux ou les héros de l'Antiquité, quelqu'un qui fascine par des pouvoirs supra-humains. Mais en même temps, hors norme, c'est aussi quelqu'un pour le psychiatre qui est en dehors des clous, et donc qui peut-être est hors des usages courants. Mais ce qui est très intéressant, c'est que de sa singularité, Sylvain Tesson en a fait quelque chose. Il en a fait un destin, il en a fait une carrière, il en a fait une réussite. Donc, effectivement, ce hors-norme est très intéressant. Peut-être que, pour que les auditeurs se retrouvent dans les extraits que nous allons lire, je veux quand même leur donner un peu la trame du récit. Alors, le point de départ du livre, c'est que Tesson vient de perdre sa mère. Et il a de tout temps, je révèle rien, il le dit lui-même dans ses livres, il a de tout temps eu un penchant pour l'alcool. Donc, il fait un soir le pitre et il tombe du 8e étage d'un immeuble dont il avait gravi la façade. Donc, il se fracasse tout le corps.
Il tombe sur la tête.
Il est fracassé de partout, on va le lire. Oui. Il est complètement brisé, au propre et au figuré. Et plutôt au sortir de son hospitalisation qui a duré des mois que de suivre une rééducation médicale qu'on lui prône et qui s'impose, il choisit et décide de s'auto-rééduquer. Donc on voit le hors-norme. Et il décide alors de traverser la France en diagonale, c'est-à-dire qu'il part du Mercantour, ça c'est la région des Alpilles près de la frontière italienne, et il va faire une diagonale qui va le mener au Cotentin, en Bretagne. Donc c'est vraiment extrême sud-ouest vers nord-est. Donc un voyage qui va se frayer à pied et dans l'état au sortir de l'hôpital que l'on pressent, non par les itinéraires communément empruntés qui seraient trop commodes, mais par les chemins noirs, voilà le titre du livre, et qui sont les anciennes traces de passage d'époque révolue. Voilà la trace du passé.
Il en parle d'ailleurs en cours de route, hein, de ces chemins noirs.
Tout à fait.
Alors, voilà, Marc Babonneau, vous avez choisi de glisser dans cette rencontre, de glisser une première chanson qui est de Barbara, mais qui est interprétée par Gérard Depardieu. C'est une petite cantate. Et alors, je me suis dit, mais quelle détresse dans cette... j'aime beaucoup Barbara, mais à un moment donné, on dit « Oh mon amie, oh ma douce, oh ma si petite à moi, mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi ». On a dit qu'il venait de perdre sa mère. Est-ce qu'on a dit que son accident a eu lieu 3 mois après sa mère?
Tout à fait. Je pense qu'il y a un lien obscur entre le décès de sa mère et puis cette bizarre tentative d'escalader un immeuble dont il se fracasse. Donc on peut penser que c'est une réaction au deuil, mais qui est loupée là. Alors pourquoi j'ai choisi Gérard Depardieu, je chante la petite cantate? Parce que j'ai pas voulu brouiller les gens. La petite cantate, c'est une ode à la disparue. Et donc, Gérard Depardieu, un homme, chante une petite cantate pour une disparue, peu importe laquelle, et ça m'a rapproché de Sylvain Tesson, qui vient de perdre sa mère, voilà pourquoi.
Voilà.
Une petite cantate du bout des doigts, hop, c'est dans tes mains, la droite monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seul je la joue maladroite. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite comme c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile, fa, sol, do, fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon, je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts. Une petite prière, et sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes, la jour au jour ont pour toi cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes, la jour au jour ont pour toi cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Si minari, si lamane, si salova.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous avons donc écouté une petite cantate, une chanson de Barbara interprétée par Gérard Depardieu. Et nous retrouvons Marc Babonneau, médecin psychiatre, membre de la Société psychanalytique de Paris, et qui nous fait le plaisir de venir nous parler d'un livre de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, vous l'avez dit, Marc, effectivement, il est très lu actuellement. D'ailleurs, son dernier livre en 2019 a un succès phénoménal. Hein, c'est La Panthère des Neiges. Et là, nous parlons d'un livre qui a la remis en selle, si je peux dire, sur les chemins noirs. Donc, il y a eu la mort de sa mère. 2-3 mois après, il a fait une chute dramatique, puisqu'il était en 1000 morceaux, et il part. Et alors, il part, et vous le dites très bien, vous avez dit, c'est une forme de thérapie.
Tout à fait. Je crois que La Panthère des Neiges, c'est la célébration de l'affût. Dans les forêts de Sibérie, c'est la célébration de la solitude choisie et consentie. Et on va dire que ce dont on va parler là maintenant et lire, c'est sur les chemins noirs. Donc, c'est la célébration de la résilience.
Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée, mais c'est une question que je vous pose, de fuite.
En avant, alors.
Oui.
Une fuite en avant.
Oui, c'est ça. Alors, on vous écoute.
Alors, je vais lire quelques extraits du début. L'année avait été rude. Longtemps, les dieux avaient favorisé la famille, nous avaient baignés de leur douceur. Peut-être se penchent-ils sur certains d'entre nous comme les fées des contes. Puis, leur sourire se crispe en grimace. Ma mère était morte comme elle avait vécu, faisant faux bond. Et moi, pris de boisson, je m'étais cassé la gueule d'un toit où je faisais le pitre. J'étais tombé du rebord de la nuit, m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. J'étais tombé sur un tas d'eau. Je regretterai longtemps cette chute parce que je disposais jusqu'alors d'une machine physique qui m'autorisait à vivre en surchauffe. Pour moi, une noble existence ressemblait aux écrans de contrôle des camions sibériens. Tous les voyants d'alerte sont au rouge, mais la machine taille sa route et la moindre Cassandre à gueule d'idiot qui agite les bras en travers de la piste pour annoncer la catastrophe est écrasée menu. La grande santé, elle menait au désastre. J'avais pris 50 ans en 8 mètres. On m'avait ramassé, j'étais revenu à la vie. Mort, je n'aurais même pas eu la grâce de voir ma mère au ciel. 100 milliards d'êtres humains sont nés sur cette terre depuis que les Homo sapiens sont devenus ce que nous sommes. Croit-on vraiment qu'on retrouve un proche dans la cohue d'une termitière éternelle encombrée d'angelots ? À l'hôpital, tout m'avait souri. Le système de santé français a ceci de merveilleux qu'il ne vous place jamais devant vos responsabilités. Dans une société antique régie par un principe d'éthique, on ne devrait pas s'occuper d'un soulographe avec les mêmes égards que ceux dispensés aux vrais nécessiteux. On ne m'avait rien reproché, on m'avait sauvé. La médecine de fine pointe, la sollicitude des infirmières, l'amour de mes proches, la lecture de Villon, le punk, tout cela m'avait soigné. Il y avait surtout eu la sainteté d'un être venu chaque jour à mon chevet, comme si les hommes de mon espèce méritaient des fidélités de bêtes. Un arbre par la fenêtre m'avait insufflé sa joie vibrante. 4 mois plus tard, j'étais dehors, bancal, le corps en peine, avec le sang d'un autre dans les veines, le crâne enfoncé, le ventre paralysé, les poumons cicatrisés, la colonne cloutée de vis et le visage difforme. La vie allait moins swinguer. Un médecin m'avait dit « L'été prochain, vous pourrez séjourner dans un centre de rééducation. » Je préférais demander au chemin ce que les tapis roulants étaient censés me rendre des forces. Loin des routes, il existait une France ombreuse pour tragédie du vacarme, épargnée par l'aménagement qui est la pollution du mystère. Une campagne du silence, du sorbier et de la chouette effraie. Les médecins, dans leur vocabulaire d'agent du politburo, recommandaient de se rééduquer. Se rééduquer, cela commençait par ficher le camp.
Alors, moi, on trouve beaucoup de choses finalement là-dedans. Effectivement, il parle du décès. Il a de multiples douleurs. Décès de sa mère, évidemment, cet accident, évidemment. Et je me dis, c'est un être très beau, très solide. Il faut qu'il s'adapte à son corps. Il a 50 ans, à peine.
Au moment de l'accident, moins. Maintenant, il a 48 ans. Oui. Je pense qu'il avait 37-38.
Ah oui, oh oui, oui, oui.
Ou
oui.
Peut-être un peu plus, enfin la quarantaine.
Oui, donc au mieux de sa forme, mm-hmm. beau garçon. Et là, son corps est difforme, il marche difficilement, il fait peur à voir. Et il y a une... Alors, malgré tout, on trouve de l'humour dans ses propos, à bien des moments.
Oui, mais l'humour, il faudrait relire un jour le petit texte que Freud a consacré à l'humour. Il y a un petit texte de 10 pages qui s'appelle « L'humour ». Et effectivement, c'est « L'humour sauve de la honte ». Et l'humour, l'autodérision, c'est une arme formidable pour renverser la table et pour mettre les rieurs de son côté et non pas contre.
Et pour éloigner peut-être la douleur, non ? D'une certaine manière.
En tout cas, pour mieux accepter les avatars.
Ce qui est extraordinaire, c'est sa lucidité. Il, à un moment donné, il dit en 8 mètres, j'ai pris 50 ans. Hein? Sa lucidité, le désir certainement inconscient de retrouver sa mère, bon, et d'une certaine manière, il a un propos bizarre d'ailleurs, cette mère qui était absente. Hein,
Ben oui, il dit qu'elle a fait faux bond, mais c'est lui qui a fait faux bond quand même,
oui.
Je trouve moi, puisqu'il est tombé de 8 mètres sur la tête.
Oui, et ce qui prône la solitude et le silence. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de fuir, on a l'impression qu'il rend hommage quand même aux services médicaux, à tous, à ses soins. Je pense qu'il a été touché d'être autant entouré par les médecins, par la famille, par les amis. En même temps, ça lui pèse, non ?
Alors, c'est très compliqué, mais je crois qu'il pousse au paroxysme ce besoin qui est commun, que nous avons tous, c'est-à-dire que nous avons... quelle que soit notre vie, moins fracassante que celle de Sylvain Tesson, mais nous avons des moments où nous avons besoin de solitude et de nous retrouver, même brièvement, pour récupérer et quitter la compagnie des autres, mais ne serait-ce que pour mieux y revenir. Donc je crois que la tentation de la solitude momentanée est quelque chose qui est commun à chacun. Je veux dire que ce va-et-vient entre la relation avec les autres et puis des moments de solitude pour se retrouver soi, est un mouvement inhérent à la vie psychique.
À un moment donné, il dit bien, je ne sais pas à quel moment, le fuir pourvoyait d'une double vertu le remède et l'oubli.
Oui. Ouais. Oui, c'est ça. C'était oui, aussi donc, c'est ça. Le double mouvement.
Voilà.
Oui, oui, oui.
D'accord.
Alors, je poursuis. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, il arrive à son point de départ. C'était mon premier jour de marche depuis la gare de Tende où m'avait mené le train de Nice. Je montais à pas faible vers le col. Des graminées blondes balayaient l'air du soir. Ces révérences étaient une première vision d'amitié, de beauté pure. Après des mois si tristes, même les moucherons au soleil offraient deux représages. Leurs nuages dans l'or tiède adressaient un signe à la solitude. On aurait cru une écriture. Peut-être, nous disait-il, cessez votre guerre intégrale contre la nature. Le col de Tende marquait un encellement de la ligne de crête du Mercantour. Il séparait l'Italie de la France. J'avais décidé de commencer là, dans le coin sud-est du pays, et de rejoindre le nord du Cotentin. Les Russes, par tradition, avant de partir en voyage, s'asseyent quelques secondes sur une chaise, une malle, sur la première pierre venue. Ils font le vide en eux, pensent à ceux qu'ils quittent, s'inquiètent de savoir s'ils ont fermé le gaz, caché le cadavre, que sais-je encore. Je m'assis donc, manière Ruskov, le dos contre un oratoire de bois, où une vierge médiévale méditait devant le paysage d'Italie. Soudain, je me levai et je partis. »
Étrange comme il rencontre, et d'ailleurs il en parlera, il rencontre souvent des chapelles, des statues de vierges dont est parsemé le territoire français, et on se rend pas compte finalement.
Et oui, puisqu'on ne passe plus par ces chemins
ancestraux
et où sont déposés comme traces du passé tous ces oratoires, ces petits monuments, ces petits hôtels où on faisait les rogations avant, enfin, toutes ces choses qui sont disséminées dans la campagne, pas toujours en bon état, mais qui sont finalement à partir du Moyen-Âge le relais des mythologies antérieures et qui sont des ponctuations comme ça dans la nature. Mais comme maintenant on prend les autoroutes, on a peu de chances de les trouver.
Voilà. Autre chose, je me suis dit en lisant cela, en fait, là, il doit y avoir un moment de stress, parce que c'est une gageure. Il part en mauvais état, il part seul. C'est un pari qui se fait.
Ah ben il se lance tout le temps des paris, vais-je y arriver, qui est le refrain de structures comme ça, un peu comme doit être la sienne, assez obsessionnelle, qui font des paris avec eux-mêmes pour avoir la joie de se sentir gagnant.
Toujours dans l'excès, oui, et voilà. dans la gagne, comme on dit.
Voilà. Un des lointains premiers ministres de la Ve République, Jean-Marc Ayrault, période Anatole France, avait commandé en son temps un rapport sur l'aménagement des campagnes françaises. Le texte avait été publié sous le mandat d'un autre ministre, Manuel Valls, période Offenbach, et sous le titre « Hyper-ruralité ». Une batterie d'experts, c'est-à-dire de spécialistes de la vérifiable, y jugeait qu'une trentaine de départements français appartenaient à l'hyper-ruralité. Pour eux, la ruralité n'était pas une grâce, mais une malédiction. Le rapport déplorait l'arriération de ces territoires qui échappaient au numérique, qui n'étaient pas assez desservis par le réseau routier, pas assez urbanisés, ou qui se trouvaient privés de grands commerces et d'accès aux administrations. Ce que nous autres, pauvres cloches romantiques, tenions pour une clé du paradis sur terre, l'ensauvagement, la préservation, l'isolement, étaient considérés dans ces pages comme des catégories du sous-développement.
Oui, on est étonné de lire ça de la part d'un homme jeune, finalement. Moi, je comprends que, en fait, moi, je pourrais le dire parce que j'ai connu cette époque du Giscard d'Estaing, du remembrement, qui a quand même modifié et mal modifié la campagne.
Qui a beaucoup modifié et qui, effectivement, l'a.
Qui a eu des conséquences.
Je suis assez d'accord sur le côté défiguré.
Oui.
De la campagne.
Oui, oui.
Après, je suis pas aussi absolu que Sylvain Tesson, parce que il y a une adaptation et un changement à l'évolution de la société, donc une utilité dans ces démarches, mais qui ont été faites de façon tout à fait opératoire, sans réflexion sur notamment la beauté des choses, parmi lesquelles Rilke nous conseille de vivre, et donc qui ont quand même assez abîmé l'environnement.
Oui. Absolument.
Ce que tous les écologistes actuellement
oui, maintenant,
nous,
il y a quand même un
nous, nous font qui... remarquer, bien
exactement,
entendu.
Exactement.
Alors, passage secret, les chemins noirs dessinaient le souvenir de la France piétonne, le réseau d'un pays anciennement paysan. Il n'appartenait pas à cette géographie des sentiers de randonnée, voies balisées plantées de panonceaux où couraient le sportif et l'élu local. Même à proximité d'une agglomération, la carte au 25 millième degré livrait des issues. Une levée de terrain, un talus discret, une venelle. Partout, l'ombre avait des survivances. Jusqu'au cœur des zones urbaines s'enfonçaient des coulées. Si Renard et Furet réussissaient à gagner le centre des villes d'Europe par les fossés et les contrescarpes, nous aussi pouvions tenir l'équilibre sur des fils invisibles. Relier ces chemins à travers le pays ralentirait ma progression, mais offrirait des avantages. Ne pas s'infliger les traversées périurbaines, éviter la brûlure du goudron.
Alors, en lisant ces passages, j'ai pensé à un livre de Marie Rouanet qui a écrit « L'arpenteur », l'histoire d'un homme qui arpente les terres et les bois. Seul bonheur qu'il a trouvé pour apaiser sa souffrance, la seule passion qu'il habite, retrouver les traces de la vie des hommes quand la nature reprend le dessus. Et des chemins pour réfléchir. Vous connaissez, vous, non,
Marie Rouanet, oui, mais pas, je n'ai pas spécialement de souvenir de ce livre. Oui.
Un très bel ouvrage,
des
chemins pour réfléchir à la place de la nature dans notre vie. Voilà. Alors là, donc, on sait le titre, Les chemins noirs, sinusoïde de l'incognito, ce besoin de liberté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Eh bien, on va lire avant une pause musicale, on va lire un dernier extrait de la première partie. Aller par les chemins noirs, chercher des clairières derrière les ronces, c'était le moyen d'échapper au dispositif. Un embrigadement pernicieux était à l'œuvre dans ma vie citadine, une surveillance moite, un enrégimentement accepté par paresse. Les nouvelles technologies envahissaient les champs de mon existence, bien que je m'en défendisse. Il ne fallait pas se leurrer, elles n'étaient pas de simples innovations destinées à simplifier la vie. Elles en étaient le substitut. Elles n'offraient pas un aimable éventail d'innovation. Elles modifiaient notre présence sur cette terre. Il était ingénu de penser qu'on pouvait les utiliser avec justesse, écrivait le philosophe italien Giorgio Agamben dans un petit manifeste de dégoût. Elles remodelaient la psyché humaine. Elles s'en prenaient au comportement. Déjà, elles régentaient la langue, injectaient leur bêta-bloquant dans la pensée. Ces machines avaient leur vie propre. Elles représentaient pour l'humanité une révolution aussi importante que la naissance de notre néocortex il y a 4 millions d'années. Amélioraient-elles l'espèce, nous rendait-elle plus libre et plus aimable? La vie avait-elle plus de grâce depuis qu'elle transitait par les écrans? Cela n'était pas sûr. Il était même possible que nous soyons en train de perdre notre pouvoir sur nos existences.
Oui. Pour le coup, là, on se rend compte que il parle des nouvelles technologies. Hors antenne, je vous avais dit, il devrait remercier aussi certaines technologies parce que c'est celles qui l'ont sauvé, qui lui ont sauvé la vie. Mais effectivement, il a raison quand il dit ces innovations pour simplifier soi-disant la vie, ça nous oblige au contraire, elles asservissent et ça nous oblige à travailler encore plus, à être toujours dans le besoin.
Oui, vous mettez votre parole là sur une ambiguïté, c'est-à-dire qu'en fait, il a remercié les médecins, mais il ne remercie pas les machines. Or, les machines, elles ont été créées par des hommes. Alors, nous venons de le voir actuellement dans toute son acuité, les machines ont sauvé beaucoup de vies, et les hommes qui allaient avec les machines, autant ceux qui les ont fabriquées que ceux qui les faisaient marcher, ont sauvé énormément de monde. Donc, Sylvain Tesson, je suis d'accord avec vous, là, il est un peu binaire quand même.
Voilà. Oui. Alors, nous allons donc écouter un petit morceau de Marin Marais. Dites-moi, cette pause musicale, vous l'avez. Pourquoi Marin Marais?
Alors, Marin Marais, parce que en lisant ce livre, il y a des moments de réveil dans la nature, puisqu'il dort le plus souvent dehors, et où tout d'un coup, il communie intensément au réveil avec la beauté de la nature qui l'entoure. Alors, ça m'a fait, par des associations libres, aller vers tous les matins du monde de Quignard, vers Monsieur de Sainte-Colombe et vers Marin Marais, et donc ces airs à la fois graves et légers. M'ont paru faire des pauses sur le chemin que nous parcourons avec Tesson.
Voilà, on écoute.
Thank you.
Parole de lecteur. Monique Fauché.
Et en compagnie de Marc Babonneau, médecin, psychiatre, membre de la Société psychanalytique de Paris, nous arpentons les chemins noirs de Sylvain Tesson. Et là, ben, nous allons commencer par une petite lecture que je vais faire, si vous êtes d'accord, Marc.
Eh bien, à vous de jouer maintenant.
À moi de jouer, voilà. Alors, nous sommes à la page 51, Le monde devint mauve. Un plateau de la Vente, Valensole ? Non. Une place d'armes. Les rangs étaient alignés, militaires. Les plantations intensives d'EVA en pleine Malaisie procuraient le même sentiment de mise en ordre. Ici, le pinceau paysan avait produit une toile parfaitement lissée, brossée de longs aplats acryliques, où naissait la perspective de la rentabilité. La terre était cimentée, lavée de produits chimiques, domestiquée par les besoins de la parfumerie, de la production de miel. La lutte contre les insectes avait été emportée. On y avait gagné un silence de parking, il n'y avait pas un vrombissement dans l'air. Et moi, je divaguais dans ces rainures bleutées avec des pensées de parisiens stupides, admiratifs des insectes. Voilà, elles auraient dû faire ricaner les producteurs qui craignaient, malgré des décennies de napalm, les attaques des cicadelles sur les plants. Voilà, alors il oublie qu'il y a quand même encore des moustiques, même des moustiques tigres, des frelons asiatiques, mais encore nostalgie, hein, encore nostalgie. Alors, ensuite, il nous parle de... il quitte Oraison. Ce qui est intéressant, Marc, je voulais souligner que quand il parle de la Provence, il montre un univers un peu violent qui changera ensuite quand il arrivera vers l'ouest.
Notamment quand il est au centre, en Touraine ou dans des pays comme ça.
Voilà.
Beaucoup plus doux que les paysages provençaux, dont lui, il éprouve la violence des couleurs et aussi la violence géologique.
Oui.
Parce qu'il y a des barres rocheuses à traverser.
Oui, des couleurs vives aussi.
Les couleurs violentes de Cézanne et les barres géologiques qu'il lui faut traverser en peinant parce qu'il est au début de son voyage. Et il est encore très mal en point.
Alors, je m'étais enrichie de 20 euros au monastère car une vieille dame, prise de pitié pour ma défiguration, m'avait glissé un billet. Vous ferez dire une messe pour qui vous voudrez. Et j'avais pensé à ma mère qui n'en aurait jamais demandé tant. C'était la première fois que ma gueule cassée suscitait pareil élan de compassion. Mon accident m'avait affligée d'une paralysie faciale et ma grimace fascinait les enfants dans la rue. Même des chiens me regardaient bizarrement. Ma bouche tordue tombait sur le côté, le nez était de traviole, la joue droite enfoncée, l'œil exophtalmique. Un fric, en somme. L'esthétique antique, revivifiée par la Renaissance et le classicisme du XVIIe siècle, m'affectait car elle imposait les canons de la symétrie. Seule la déconstruction cubiste au début du XXe siècle avait corrigé l'impératif d'équilibre. Les portraits de Picasso consolaient les types comme moi, atteints de paralysie faciale. Les premiers signifiaient aux seconds que la vie peut s'accommoder de la laideur. Et si j'avais vécu dans les temps médiévaux, en plein rêve de Bosch, ma disgrâce serait passée inaperçue.
Alors, il nous promène là dans l'histoire de la peinture et il passe de la rudesse des temps anciens, médiévaux, en disant que lui n'aurait pas sa place à l'ère de la peinture classique et du triomphe du beau dans le cadre de la toile au chevalet et qu'il retrouve un petit peu d'humour là avec le cubisme et puis l'art abstrait, puisque quand même le XXe siècle, c'est le siècle de la déconstruction. Et comme il est lui-même assez déconstruit sur le plan osseux, il s'y retrouve un peu. Bon, c'est ça, c'est un humour dont on parlait tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Alors, là, les vautours étaient en chouf. Alors, pour les auditeurs qui ne sauraient pas, en chouf, ça veut dire ils surveillent, c'est le langage beurre, hein, je pense. En chouf, et des vautours, donc, étaient en chouf dans le ciel déjà blanc quand je me mis en marche. J'avais passé une bonne nuit, le nez dans le thym, et en une heure joyeuse, j'atteignis une échancrure dans une échine calcaire, le pas du loup. Les murs faisaient baisser ma moyenne kilométrique, je m'arrêtais à chaque buisson, la gourmandise faisait saigner mes mains, le danger de se faire griffer pour la jouissance d'un fruit me rappelait quelque chose, une histoire d'amour. C'était le seuil d'une journée de plein feu estival, sans autre impératif que d'avancer un peu, sans quiconque à informer, sans répondre à donner. Une journée dehors, c'est-à-dire à l'abri. Ça m'a frappé, Marc. Comment vous percevez ça ? Une journée dehors, c'est-à-dire à l'abri ?
À l'abri, puisque dehors, toutes les issues sont possibles.
Ouais.
On peut se sauver à 360 degrés, se sauver dans tous les sens du terme. Tandis que dedans, si la porte est fermée, à clé, pas d'issue.
On est coincé.
Pas d'issue de secours. On est coincé, voilà. Et donc, ils détestent être coincés.
Oui, maladivement libre.
C'est ça. Homme libre toujours de chérir à la mer, c'est la même chose.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Les historiens avaient inventé des expressions pour classer les époques de l'humanité. L'âge de la pierre, l'âge de fer, l'âge de bronze étaient succédés, puis les âges antiques et féodaux. Ces temps-là étaient des temps immobiles. Notre époque consacrait soudain un âge du flux. Les avions croisés, les cargos voguaient, les particules de plastique flottaient dans l'océan, la moindre brosse à dents faisait le tour du monde, les petits Normands partaient au djihad pour poster des vidéos sur YouTube, les hommes dansaient sur l'échiquier, ce tournis avait même été érigé en dogme. Une culture se devait à la circulation et au contact, elle voulait une chance, et si elle voulait une chance de se voir célébrer. L'ode à la diversité, à l'échange, à la communication des univers était le nouveau catéchisme des professionnels de la production culturelle en Europe. Je m'arrête là. C'est important, ça. Hein ? Oui, donc l'ode à la diversité, oui, à la communication à tout prix. On en parle tellement maintenant. Oui, bon, il n'y a rien à dire. Il dit, on dirait des évidences, mais c'est pas... les personnes qui le lisent, mais oui, il a raison. Mais finalement, on ne le vit pas forcément. On est dans la communication. La preuve, nous sommes à la radio.
Oui, c'est très compliqué. Bon, moi, je ne vais pas faire la psychanalyse sauvage de Sylvain Tesson, mais effectivement, c'est encore son ambivalence. Il est vraiment dans beaucoup de médias. Il écrit dans un grand journal. Il fréquente tous les salons du livre. Et puis après, par période, il fuit toute la communication qui l'envahit. Et donc, c'est à ces moments-là qu'effectivement, il a horreur de ce tohu-bohu autour de lui. Et pour se retrouver, comme on disait tout à l'heure, il s'en va justement dehors et fuyant en avant, comme c'est des choses qu'on a dites au cours de l'émission.
Alors, dernier passage que je vais lire, le souvenir de ma mère défunte me murmurait confusément ce genre de choses, c'est-à-dire passant, arrête-toi et prie, c'est ici la tombe des morts, aujourd'hui pour moi, demain pour toi. C'est ce qu'il avait vu sur une plaque sur le mur d'un cimetière. Donc le souvenir de ma mère défunte me murmurait confusément ce genre de choses. Sa pensée m'escortait par des jaillissements nés d'une vision. Pourquoi le souvenir des disparus est-il lié à des spectacles anodins comme une branche oscillant dans le vent ou le dessin de l'arête d'une colline ? Soudain, les spectres surgissent. Pendant quelques mois, j'avais porté une bague à tête de mort qu'on m'avait retirée après ma chute. L'inscription latine gravée au revers du crâne disait la même chose que la plaque de Barjac. « Je fus ce que tu es, tu seras ce que je suis ». J'avais tardé à me pénétrer de cette évidence que les Romains inscrivent à l'entrée de leur cimetière. Décidément, j'avais 2 millénaires de retard. Il était criminel de croire que les choses duraient. On peut s'arrêter là, peut-être ?
Oui.
Oui. Voilà, donc...
Une petite pause.
On va faire une toute petite pause, encore marée.
Une minute.
Une minute, voilà, et puis nous continuerons.
Parole de lecteur. Monique Fauché.
et avec Marc Babonneau sur les chemins noirs, ceux de Sylvain Tesson. Et Marc Babonneau, qui est psychiatre, psychanalyste, nous commente justement ce livre qui est passionnant et que l'on conseille à nos auditeurs, bien entendu. À Marc, vous avez la parole.
Alors, comme il n'est plus temps de flâner, je ne vais pas mettre les bouchées doubles, mais les foulées allongées, au contraire. Je vais lire trois extraits qui amènent donc notre Sylvain Tesson vers les abords de la Bretagne. Une seule nuit, sèche et tiède sous des arbres assez vieux, avait opéré son miracle. Je me réveillais au pied d'un pin, gonflé d'une excitation nouvelle. L'arbre fait-il percoler un peu de sa force dans l'organisme de celui qui dort à son pied? Après tout, on gagnait à rester dans le voisinage de certains êtres. Peut-être en allait-il de même avec les arbres. Nous passâmes des heures à ouvrir et à refermer les clôtures pour nous frayer passage dans les champs. Les rats aux pieds regagnaient leurs galeries, les rapaces les tenaient à l'œil, les conifères maintenaient la fraîcheur, les chemins fuyaient dans les forêts mixtes entre les haies de pierre. L'automne avait remporté sa victoire sur les fougères, elles saignaient déjà, elles étaient les premières à avouer que la fête était finie, les arbres, eux, tenaient encore.
On ne peut qu'apprécier ce style, vraiment, il écrit bien.
Il écrit très bien et vraiment, il a un style élégiaque quand il parle de la nature.
Absolument.
Alors, il continue. Je marchais à foulée calme, plus que moi. 2 mois de cet exercice avaient lancé en moi une mécanique de clepsydre que rien n'arrêterait. Le matin, j'éprouvais encore de vives douleurs dans le dos. 3 ou 4 kilomètres en venaient à bout. Un rouage actionné longtemps, s'huile de lui-même. La marche avait aussi ses effets d'alambic moral, dissolvant les scories. Tout corps après sa chute, pour peu qu'il s'en relève, devrait entreprendre une randonnée forcée. Sur les chemins de Provence, j'avais peiné à poursuivre mon ombre. Dans le massif central, j'avais senti flotter des pensées inamicales. Ici, dans un monde lavé d'iode, où croissaient des oiseaux en tenue de gala, il me semblait glisser paisiblement. Partout, les chemins noirs m'avaient gratifié de leur double vertu, effacement du corps, liberté d'action. Et pour finir, je lis la dernière page conclusive. Je passais la dernière nuit sur un rocher herbeux avancé en presqu'île devant Aumonville-la-Rogue. Nous atteignîmes l'endroit dans l'obscurité sur des rochers glissants. Nous plantâmes les tentes et le fracas des vagues maintint le sommeil à distance. Aujourd'hui, nous avions abattu 35 kilomètres en compliquant l'itinéraire dans les bocages. « C'est fini, me dis-je. Le destin m'accordait la grâce de marcher à nouveau tout mon sou et de dormir à la belle étoile sur les avant-postes vivables, les vires des parois, les sous-bois, le bord des falaises. Le pays était là, sous mon dos. Personne ne savait très bien ce que lui promettaient les métamorphoses. Les nations ne sont pas des reptiles, elles ignorent de quoi sera faite leur mue. La France changeait d'aspect, la campagne de visage, les villes de forme et la marée montait autour de notre tente. Demain, il s'agirait de ne pas traîner. » Une seule chose était acquise, on pouvait encore partir droit devant soi et battre la nature. Il y avait encore des vallons où s'engouffrait le jour sans personne pour indiquer la direction à prendre, et on pouvait couronner ces heures de plein vent par des nuits dans des replis grandioses. Il fallait les chercher, il existait des interstices, il demeurait des chemins noirs. De quoi se plaindre ?
De quoi se plaindre ? Extraordinaire cette dernière phrase. De quoi se plaindre ? Il a souffert terriblement, on l'imagine. Extraordinaire, parce qu'au départ, il faisait grand maximum, ce qui était déjà pas mal, 15 kilomètres. À la fin, il a pu faire 45 kilomètres à un moment donné. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Un salut, savourer l'arrivée ou regret ? Peut-être un peu de regret aussi.
Les deux, probablement, c'est toujours, toujours la joie d'avoir accompli son but et d'avoir trouvé ce qu'il cherchait et qui plus est d'avoir accompli. Donc, au nez de tous, cette rééducation très très particulière et puis peut-être le regret de ces moments ineffables dont il nous a laissé dans son livre quelques échos.
Voilà. Alors, et puis on retrouve tout au cours de ce que vous venez de lire cette idée de l'arbre. Et peut-être que d'ailleurs, vous avez bien choisi la dernière chanson que nous allons écouter de Barbara. Cette idée de l'arbre, on l'a trouvée en début de livre. Et à un moment donné, il parle de l'arbre. Il dort sous les arbres d'ailleurs. Un arbre lui fait du bien, comme un individu. Et donc, il a trouvé une forme de salut.
Tout à fait. Alors, dans une de ces chansons-là, qui s'appelle « Mon enfance », Barbara dit « J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance ». Bon, alors, c'est pas celle-là qu'on va écouter, mais je rends à Barbara sa voix propre. Et comme nous avons traversé des bois et des forêts, eh ben, elle va nous chanter « Le petit bois de Saint-Amand ».
Et maintenant, on parle beaucoup d'arbres, vous le savez, qu'il y a des livres entiers qui parlent d'arbres et de la vie des arbres et de leur communion, disons. Alors, nous écoutons Barbara, merci.
Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupon vole et s'envole nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis partie, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Y a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Y a un arbre, pigeon vole, mon cœur vole, pigeon vole et s'envole. Y a un arbre, pigeon vole.
Parole de lecteur. Monique Fauché.
Voilà, et c'est avec Marc Babonneau que nous avons parlé du journal, on pourrait dire, de Sylvain Tesson sur les chemins noirs, qui existe désormais en livre de poche, un roman, un livre qui se lit vraiment avec un extrême bonheur et qui nous amène à réfléchir, non Marc ?
Tout à fait, tout à fait. En tout cas, Monique, je vous remercie beaucoup de votre invitation et j'ai été très heureux de partager ma joie à lire Sylvain Tesson et à comme ça, essayer de transmettre quelques extraits éparpillés à tous les auditeurs que je remercie d'avoir écoutés.
Merci à vous et à bientôt.
À bientôt.